99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 24 mars, une autre journée pas mal fraîche pour cette période-ci de l'année. J'espère qu'elle était bonne pour vous. À l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante, on va se poser la question. Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, a-t-il les capacités intellectuelles pour s'exprimer en français? On aura l'occasion aussi de parler avec David Hervieux, président de Dévolution à la Valtrie, qui s'apprête à ouvrir un premier bureau européen à Malaga. En Espagne. Éric Côté sera avec nous, PDG de la Corporation des entreprises en construction. On va parler des coûts en construction. On en parlera également avec la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcor. Mais tout d'abord, il y aura un projet pilote de marché public cet été à l'espace culturel de Repentigny, l'initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un budget participatif qui a donné lieu à une vaste consultation publique, comme l'indique le maire Nicolas Dufour à notre collègue Régent Turgeon.
Peut-être d'entrée de jeu nous rappeler la démarche derrière ce projet pilote de marché public. Ça s'est pas fait sur un coup de tête, ça.
Non, à vrai dire, un de nos engagements électoraux avait été en 2021 de lancer le concept de budget participatif, donc un budget où les citoyens peuvent décider de où la ville va investir leur argent. Donc, on avait réservé un 100 000 $ là, pour la première initiative de budget participatif. Okay. On a passé à travers de la co-conception de projets avec les citoyens. Ensuite, on est passé au vote populaire et majoritairement, là, je pense que c'était à plus de 60 % les gens ont voté pour que le projet retenu soit le marché public. Alors, on va réaliser cette année le tout premier marché public de Repentigny.
J'ai même compris qu'il y en avait eu 202 projets qui avaient été soumis. On en a retenu 13. Et au final, donc, c'est le marché public qui le remporte. Le processus a été transparent, là.
Ah oui, puis la beauté du processus, c'est qu'il s'est fait en collaboration avec les citoyens. Parce que parfois, on voit les citoyens que comme des contribuables, mais pour nous, à Repentigny, c'est avant tout des citoyens qui ont des idées, des projets, des aspirations. Ouais. Puis c'est important pour nous de faire un budget participatif où les gens pouvaient concevoir des projets avec la ville, voir les possibilités, amener leur idée pour l'approbation populaire. Alors, ça a été une belle démarche citoyenne qui a été très appréciée. Puis, on a été surpris, là, 200 projets qui ont été déposés. Et en groupe de travail avec des citoyens, on a retravaillé 13 et c'est eux qui ont été soumis au vote populaire.
Peut-être que parmi les 13, il y en a qui seront encore très valides et qu'on pourra peut-être mettre de l'avant éventuellement aussi.
Oui, parce qu'on a pris engagement à l'élection de 2025 de revenir avec une deuxième édition du budget participatif parce que ça prend du temps de réaliser le projet. Donc, on met 100 000 sur 2 ans pour réaliser un projet. Le temps de concevoir les appels de projet, de les retravailler avec la population, de passer au vote et ensuite de le réaliser puis de l'opérationnaliser, ça prend un certain temps. Mais c'est sûr là, que dans les prochains budgets de la ville, il va y avoir une deuxième édition du budget participatif.
Un marché public, ça m'interpelle. C'est une belle vitrine pour les producteurs maraîchers, les artisans.
Tu sais, il ne faut pas l'oublier, hein, 40 % du territoire de Repentigny est agricole. On n'y pense pas souvent, mais on a beaucoup de bons agriculteurs à Repentigny, notamment là, dans le secteur de Le Gardeur, beaucoup de producteurs. Donc, cette année, là, avec le marché public, on va avoir 70 % des marchands qui vont être de la région pour le bioalimentaire. Et on va avoir 30 % qui vont être plus des artisans, donc qui vont pouvoir vendre leurs produits. Donc, ça va mettre en valeur là, nos agriculteurs de Repentigny, mais aussi de la grande région de la Naudière.
On pourrait pas imaginer mieux, j'imagine, pour faire la promotion de l'achat local.
Ah, vraiment. Puis non seulement ça fait la promotion de l'achat local, ça fait découvrir la réalité de nos agriculteurs sur le territoire Repentigny, mais je trouve qu'il y a un beau maillage aussi avec le développement économique qu'on fait. On le sait, là, il y a la zone Actec là, qui est en pleine expansion à Repentigny, puis l'Assomption qui vise justement à attirer des entreprises qui sont dans les technologies agricoles. Donc, on trouve que c'est un beau moyen là, de faire un maillage, de parler d'achat local, de faire connaître la réalité de nos agriculteurs et de parler de développement économique.
Il y a 3 dates à retenir, on doit comprendre, là, le 5 juillet, le 2 août et le 6 septembre.
Ça n'a pas été facile de réussir à trouver les dates parce que comme cette année encore, ça va être une grosse année d'activité à Repentigny. On ne manquera pas d'événements. Ça a été les trois journées qui ont été prises parce que c'est celles qu'on trouvait qui étaient les plus faciles là, pour mobiliser la population. Donc, on a travaillé seul avec Passion Marché qui est un organisme qui est spécialisé dans l'établissement des marchés publics au Québec. Ils nous ont dit que c'était les trois meilleures dates là, pour le tenir.
On dit que ça aura lieu à l'espace culturel, mais c'est peut-être une expression que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est quoi l'espace culturel?
Proche de l'hôtel de ville, entre le boulevard Iberville et la rue Notre-Dame, là, on a le théâtre Alphonse Desjardins et le centre d'art Diane Dufresne. Donc, l'espace culturel là, et le parvis qui accueille les deux installations. Donc, ça va être intéressant parce qu'on y maille la culture et l'agriculture. Alors, ça va faire un beau maillage.
Ça va être un projet pilote qui sera évalué.
On va voir les résultats là, de la première année, puis ensuite, on va travailler à se trouver des partenaires. L'objectif n'est pas nécessairement que la ville supporte l'événement en tant que tel financièrement par les comptes de taxes, mais que ça s'envole de ses propres ailes. Donc, si on a une belle édition, on va travailler à trouver des partenaires.
C'était le maire de Terrebonne, Nicolas Dufour, avec qui Régent Turgeon s'entretenait sur ce projet pilote de marché public cet été à l'espace culturel de Repentigny. 16h11, dans un instant, on parle du coût en construction, des coûts en construction.
Au Québec, ce n'est pas avec une publicité qu'on va sauver le français. Non, c'est avec...
C'est avec moi, Léo, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et vous, en train d'écouter la radio en français. Continuez comme ça, là. Un message de Léo
et du gouvernement du Québec.
C'est le moment parfait pour renouveler vos électroménagers chez Ameublement SG Dion. Profitez des jours d'économie GE et Profile et plus vous achetez, plus vous économisez. Obtenez 10 % de rabais à l'achat de 2 appareils, 15 % à l'achat de 3, 20 % à l'achat de 4 et jusqu'à 25 % d'économie à l'achat de 5 appareils et plus. Sur une sélection d'appareils de cuisine et de buanderie GE et Profile. Mais faites vite, l'offre est valide jusqu'au 25 mars seulement. Passez-nous voir chez Ameublement SG Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Ameublement SG Dion, la qualité et le service près de chez vous.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Saviez-vous que le retrait d'une prothèse partielle pendant une certaine période de temps peut provoquer un déplacement de vos dents naturelles restantes? C'est ce qu'on appelle le phénomène de migration. Il est donc probable que lorsque vous essayerez de remettre votre partielle en bouche, celui-ci ne prendra plus sa position, ce qui signifie qu'il devra être changé. Afin d'éviter ce problème, si vous enlevez votre partielle, n'attendez pas et allez le faire ajuster.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219, poste 3 ou visite leur page Facebook.
Écoute en direct, actualités régionales, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Ici Mélanie Joly. Dans la prochaine élection partielle fédérale à Terrebonne, vous aurez un choix important à faire. Face à un monde plus instable, Mark Carney et notre nouveau gouvernement libéral, on se bat pour protéger notre économie et notre avenir. Avec notre candidate libérale Tatiana Auguste, Terrebonne a une voix forte à la table des décisions. Le travail vient de commencer, alors on continue ensemble à bâtir un Québec et un Canada plus fort.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
CFNG. Lanaudière PM. Économie.
16h14, il y a le Parti québécois qui rend public l'offensive qu'il va mener s'il prend le pouvoir pour diminuer les coûts de construction au Québec. Et François Morin en discute avec la députée de Repentigny, Catherine Gentilcor.
Mais oui, écoutez, trouvez-vous ça normal que construire une école au Québec coûte en moyenne 175 millions de dollars, puis qu'en Ontario, juste à côté, ça coûte en moyenne 75 millions de dollars. Je veux dire, c'est plus du double déjà en coûts. Donc, il faut absolument s'y atteler. Depuis la commission Charbonneau, évidemment, il y a certaines entreprises comme SNC-Lavalin qui ont été démantelées. Donc, déjà, ça a eu un impact, évidemment, sur la concurrence dans le domaine de la construction. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut agir là-dessus. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir, il y avait en moyenne 4,7 soumissionnaires pour les appels d'offres majeurs au gouvernement. Déjà, à l'époque, c'était considéré comme étant trop peu. Et là, maintenant, on est à 2,6 soumissionnaires. Donc, vraiment, un grave manque de concurrence dans le domaine de la construction. Mais pas que, il y a aussi trop de bureaucratie, trop d'étapes, trop de paperasse. C'est compliqué de mettre en place les projets. Ça fait en sorte que les délais sont longs et on doit retourner constamment à la table à dessin. Donc, beaucoup trop long, beaucoup trop lourd aussi de partir des projets d'infrastructure au Québec. Et ce qui occasionne, et ce qui, à mon avis, est la raison la plus probante, en fait, de cette situation-là, la cause la plus probante, c'est que, à cause de ces délais-là, le gouvernement du Québec n'est pas un employeur fiable, n'est pas un donneur d'ouvrage fiable en ce qui concerne les infrastructures, les appels d'offres et la construction au Québec. Avance-recul, je veux dire, on l'a vu avec HMR, on l'a vu avec le troisième lien, on l'a vu avec le tramway. Donc, les compagnies perdent des sous à soumissionner là-dessus et à être en attente de ces projets-là. Et maintenant, ben ils projettent justement, ils tiennent compte de cet argent-là, des dizaines de millions de dollars qu'ils doivent dépenser seulement pour soumissionner, ben, dans l'attente de la mise en œuvre de ces projets-là. Ben, ça fait augmenter les coûts également. Donc, il faut absolument agir là-dessus.
Il y a quand même deux projets également dans la région. On va se rafraîchir un peu la mémoire. Là, l'hôpital Pierre-Legardeur, une facture de près de 550 millions et la Maison des aînés du côté de Sainte-Élisabeth à près de 1,8 million. Tout le monde trouve effectivement que ça a coûté cher.
Ça coûte trop cher. Écoutez, puis comme je l'ai dit, si on ne peut pas agir sur la concurrence, si on ne peut pas permettre à des plus petits joueurs de soumissionner, parce que c'est ça, dans le cas de HMR, entre autres, c'est ce qu'on nous a dit, on a fractionné les appels d'offres pour que les projets soient plus petits, puis pour permettre à nos PME d'ici de pouvoir soumissionner également, puis de baisser les coûts. Il faut aussi impliquer l'ensemble des intervenants dans le processus, c'est-à-dire qu'en ce moment, les entrepreneurs généraux, les compagnies en construction ne peuvent pas donner leur avis ou proposer de l'optimisation sur ce qui est proposé pour s'assurer que les coûts soient moindres. Donc ça, il faut leur permettre de faire ça. Très important. Puis on peut agir aussi sur le code du bâtiment. Il faut uniformiser le code du bâtiment à l'ensemble du Québec puis s'assurer d'avoir des modèles qui sont après ça reproduisables. Donc, par exemple, si on construit une école à un coût X qui est satisfaisant, ben garder ce modèle-là en poche puis être capable de le reproduire ailleurs au Québec pour justement avoir des économies d'échelle puis réduire les coûts de ces constructions-là. Donc, il y a des choses qui sont à faire. Nous, on propose une série de 10 mesures pour agir là-dessus. Puis je pense que tout le monde est d'accord pour se dire quand on est un citoyen, un payeur de taxes, puis qu'on regarde qu'on paye, qu'on constate qu'on paye plus que deux fois plus cher qu'en Ontario pour le même projet, ben on se dit ça n'a pas de bon sens, il faut agir là-dessus. Là.
Et que dire maintenant de l'affirmation de la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, qui a indiqué hier que Québec n'a plus les moyens de subventionner les infrastructures municipales à la hauteur des demandes des élus?
Non, mais c'est justement, c'est l'œuf ou la poule. Donc, plus on attend pour ces projets-là, plus ces projets-là coûtent cher, plus le PQI devient un stationnement à projet. Parce que si le projet coûte quatre fois plus cher que prévu à l'origine, il n'y a plus d'argent dans les coffres du gouvernement pour aller de l'avant avec les autres projets. Donc, c'est une roue qui tourne. C'est l'œuf ou la poule. Donc, plus on attend, plus ça coûte cher. Moi, on a les moyens pour aller de l'avant avec les projets. À un moment donné, il faut peser sur le bouton puis il faut y aller. C'est ce qu'un gouvernement du Parti québécois fait avec HMR, entre autres. Ça fait longtemps que les plans et les devis sont prêts pour ce projet-là. Là, on veut tout le temps retourner dans une nouvelle ronde d'optimisation. Ça suffit. À un moment donné, il faut aller de l'avant puis s'assurer que les coûts qui sont provisionnés, qui sont prévus en ce moment, ce soit ça. Que ça coûte aux contribuables puis aux coffres de l'État en fin du compte. Plus on attend, plus ça va coûter cher. Là. Ça, on le sait, c'est démontré. Donc, à un moment donné, il faut aller de l'avant avec ces projets-là puis il faut montrer aux compagnies qu'on est des donneurs d'ouvrage, que le gouvernement est un donneur d'ouvrage qui est fiable. Parce que ça, c'est sûr que ça n'aide pas, ça n'encourage pas les entreprises à soumissionner quand on ne sait pas si le projet va vraiment aller de l'avant, quand on pense que ça va niaiser pendant plusieurs années avant d'aller de l'avant. Donc, c'est important, à un moment donné, d'aller de l'avant puis de prendre la décision d'y aller parce que ça s'améliorera pas, puis il faut agir sur nos infrastructures. Donc, je rappelle que la CAQ est le seul responsable là, de cette situation-là financière. Ils ont commencé leur premier mandat avec un surplus de 7 milliards de dollars, et là, on est dans un déficit d'environ 9 milliards de dollars. Je vous laisse faire le calcul. Ils ont creusé de 16 milliards l'écart. À un moment donné, c'est pas aux citoyens à payer pour ça et il faut aller de l'avant dans ces réflexions-là qui sont majeures puis dans ces projets d'infrastructures-là qui sont essentiels finalement pour la population du Québec.
C'était la députée de Terrebonne, la péquiste Catherine Gentilcor, qui réagissait, bon, en fait, justement, parlait de cette offensive que le Parti québécois va mener pour diminuer les coûts de construction au Québec s'il prend le pouvoir. Et d'autre part, réaction, c'est une cette fois une réaction de la Corporation des entrepreneurs en construction du Québec. On est positif face aux positions prises par le Parti québécois et de certains candidats, donc en fait les candidats à la direction de la CAQ, là, de revoir les façons de faire dans le secteur de la construction. Et François Morin a eu cet entretien avec le PDG de la Corporation des entrepreneurs en construction du Québec, Éric Côté.
On n'a rien changé pour faire les choses pour qu'elles coûtent moins cher dans le budget. On a ajouté un peu d'argent, mais on n'a pas changé le processus. Fait qu'on, encore là, toutes les écoles et les projets qu'on veut faire, on ne sera pas capable de les faire si on examine le budget du Québec en ce moment. Par contre, on regarde ce qui se passe du côté de la chefferie de la CAQ, la Coalition Avenir Québec. On regarde ce matin les gens du Parti québécois qui attaquent la bête à bras-le-corps, si on peut dire ainsi. Là. Et réduire les coûts de construction, c'est l'engagement du Parti québécois avec des solutions concrètes. Et je suis heureux de voir, dans le fond, autant que M. Drainville en a parlé, autant que Paul Saint-Pierre Plamondon et son équipe en ont parlé, on retient des propositions que la Corporation des entrepreneurs généraux a faites, notamment pour sauver de l'argent, pour maximiser les choses, d'alléger le fardeau des entreprises. C'est des bonnes nouvelles. J'espère que tous ces gens-là qui font des engagements vont être en mesure, une fois en poste, en mois d'octobre, de les mettre en place, si ce n'est qu'avant même, si c'est possible. Là. Mais il y a des belles choses qu'on voit là. Un ministre de la Construction, c'était intéressant, dans le fond, ce que M. Drainville a lancé. Mais ce matin, je vous dirais, ce qui retient mon attention, c'est l'engagement du Parti québécois qui était plutôt silencieux par rapport aux coûts de construction. On les avait rencontrés en commission parlementaire à plusieurs occasions. On leur avait fait pas de revention, mais je pense qu'ils ont fait leur devoir. Ils ont examiné les choses et plusieurs de nos recommandations s'y retrouvent. Et c'est là une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des gens au Parti québécois qui ont fait un effort de mieux comprendre comment fonctionne notre industrie, comment fonctionnent les contrats publics. Alors, moi, je trouve ça franchement intéressant et j'ai hâte d'en parler avec ces gens-là pour aller plus dans le détail et comment ça va se faire. Mais 10 actions pour maximiser les coûts de construction du côté du Parti québécois, je pense que on va finir par avoir une liste, tout le monde, et on va arriver avec une liste qu'on va pouvoir appliquer. Enfin, j'ai vraiment hâte.
Est-ce que votre association pourrait aller jusqu'à faire un peu de lobby dans le cadre de la campagne électorale pour justement là, que quelqu'un prenne véritablement un engagement, qu'on aille au-delà des belles intentions?
Bien, notre mandat, c'est de défendre les intérêts des entrepreneurs généraux et de l'industrie. Et nous sommes des lobbyistes enregistrés. C'est ce que nous faisons. Alors, nous ne sommes pas un peu dans la campagne électorale. On l'a annoncé déjà en février qu'on allait intervenir dans le processus pour que les partis se commettent sur des questions. Et je suis heureux de voir que celui qui a fait la feuille la plus élaborée, en tout cas à date, c'est les gens du Parti québécois. J'imagine que le Parti libéral suivra. Et on va attendre de voir les conclusions de la course à la chefferie du côté de la CAQ, qu'est-ce qui va se passer aussi, mais je pense qu'on va avoir des plateformes électorales qui vont se converger, selon moi, parce que les solutions, elles ne sont pas multiples, mais je pense qu'on est dans une situation où on va pouvoir regarder les choses de plus près et que c'est le fun qu'on commence le travail maintenant au lieu qu'on dans le fond, en octobre, quand le gouvernement va arriver au pouvoir, parce qu'on va avoir un nouveau premier ministre au mois d'octobre. On ne sait pas encore c'est qui. On va laisser les citoyens décider, mais on aura éventuellement, j'espère, quelqu'un qui va prendre à bras le corps toutes ces réformes-là, puis va faire en sorte qu'on va pouvoir profiter de nos infrastructures, mais aussi profiter des services qu'on a besoin dans toutes ces infrastructures-là. Je le dis souvent, Les infrastructures, c'est important, nos écoles, c'est important, mais c'est les ressources qu'on y met, c'est les professeurs, c'est pour les élèves, c'est les soignants dans les hôpitaux. C'est là où on devrait s'assurer qu'on a aussi le plus d'argent. Et pour ça, faut en sauver dans les infrastructures.
Et il y a peut-être, sans le vouloir, la ministre Guilbeault qui annonce, en fait, qui fait un constat, et c'est un peu désolant. Et ça se résume à une bonne vieille expression québécoise. On n'a plus une scène.
Bien, on n'a plus une scène parce qu'on a mis l'argent peut-être au mauvais endroit à certains moments. C'est ça la question. Puis, en fait, on a aussi ajouté, et c'est très subtil, hein, au gouvernement, on rajoute une mesure administrative. C'est une petite couche mince. On dit, ça ne fera pas une grosse différence. Sauf qu'on accumule les couches successives. Puis on finit par se rendre compte que ça a pris une épaisseur importante, que ça l'alourdit les processus. Et ça prend beaucoup de courage politique pour enlever ces mesures-là, mais de le faire intelligemment pour pas que ça ait des conséquences. Quand on dit d'alléger les normes administratives de tous les organismes, là, la CNSST, la CCQ, la RBQ, Revenu Québec, on s'attaque à des choses qui sont quand même bien établies et lourdes, mais qui finalement n'aide pas à les entrepreneurs à être plus performants. Ça devient des mesures contraignantes. Mais quand on parle aussi des codes de construction, on a parlé des éléments au niveau sismique qu'on s'est donné. On s'est donné des attentes, des complexités tellement élevées qu'on a comme oublié qu'il fallait payer pour tout ça aussi à la fin. Collectivement, si les entrepreneurs vous le disent, si les ingénieurs vous le disent qu'on a des infrastructures, ben je pense que là, on s'enligne vers une belle direction où je pense qu'on va mettre en place des solutions. On va pas juste en discuter pendant la campagne électorale. J'ai hâte de voir la suite, en tout cas.
C'était Éric Côté. Il est président, directeur général de la Corporation des entrepreneurs en construction du Québec. Il est 16h26.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour le pont Charles de Gaulle, ça se passe relativement bien, un peu dense à partir du tricentenaire et ça jusqu'à environ 500 mètres passés Henri Bourassa, traversée facile de la rivière des Prairies. Du côté Rive-Nord, Pantigny, ça se passe bien, 40 Est. Je dois vous mentionner que la 341 montée de l'Épiphanie là, à partir de la 40 et ça jusqu'à la rivière l'Assomption, là, c'est très lourd en ce moment. Pont Le Gardeur, ça va bien autant par Sherbrooke que par Notre-Dame, la 25 Nord, un peu dense en arrivant sur Laval depuis le boulevard Lévesque et ce jusqu'à environ 500 mètres passé la jonction avec la 440. Île-Saint-Jean, 25 Nord, Terrebonne, Mascouche, ça se passe très bien. Bon, Sophie Masson facile en ce moment et finalement autoroute 640 entre la 25 et la 40. Direction ouest, on circule librement. Direction ouest, un petit peu plus nombreux là, à partir de la montée des Pionniers pour la 40. Les nouvelles dans un instant.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 22 mars. Gagne 133 et 33 à la ligne des Hauts, Cathy Lavallée de Saint-Côme, carte achetée au dépanneur RMRI, Sylvain Simoneau de Saint-Robert, une carte procurée à Berthier Vélo dépanneur F1, Simon Dufour Boisvert de Sorel-Tracy, carte achetée au dépanneur Guylaine. Gagne 1333 et 33 à la carte pleine, Yannick Bastien de Sainte-Anne de Sorel, grâce à une carte achetée au dépanneur Club Vidéo Saint-Gabriel, Diane Bourdon de Saint-Ligory, carte procurée au Bonissoir Shell de Saint-Charles-Borromée et Caroline Barrette de Saint-Charles-Borromée grâce à une carte achetée au Couche-Tard. Et 100$ ont été remportés à la deuxième chance par Robert Bourassa de Sainte-Julienne, Éric Lépine de Joliette, Julie Lachapelle de Saint-Jacques, Ronald McDonald de l'Épiphanie, Alain Parisé de Sainte-Julienne et Julie Paradis de Sorel-Tracy. Tous les dimanches matins à 10h05, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. 5000$ en prix à 10h05 avec les trois jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8$ pour une feuille de 4. Chez tous nos dépositaires, la liste complète est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. Section Super Radio Bingo. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapel longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 principal à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
C'est le moment parfait pour renouveler vos électroménagers chez Ameublement SG Dion. Profitez des jours d'économie GE et Profile et plus vous achetez, plus vous économisez. Obtenez 10 % de rabais à l'achat de 2 appareils, 15 % à l'achat de 3, 20 % à l'achat de 4 et jusqu'à 25 % d'économie à l'achat de 5 appareils et plus. Sur une sélection d'appareils de cuisine et de buanderie GE et Profile. Mais faites vite, l'offre est valide jusqu'au 25 mars seulement. Passez-nous voir chez Ameublement SG Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Ameublement SG Dion, la qualité et le service près de chez vous.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant du Kicks Play S 2025, le véhicule le plus abordable au Québec à partir de seulement 22 774 plus taxes au comptant, incluant les frais de transport et de préparation. Nous avons plusieurs choix d'inventaire de disponibles. N'attendez plus. Passez en concession dès maintenant au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour faire un essai routier. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
L'actualité de ce mardi 24 mars. En manchette, un jeune Lanaudois meurt sous les balles de son assassin en République dominicaine. Québec veut mieux encadrer les personnes malades qui présentent un danger. Et l'église de Saint-Lin-Laurentide n'est pas à vendre. Tout d'abord, Pierre Jubinville, un jeune homme de la région, a été tué par balle en République dominicaine.
On dit souvent, Claude, que la République est un endroit dangereux. Alors, une autre preuve, le jeune homme de 19 ans a été atteint mortellement lundi par balle. Il s'agit de Tristan Primo Poitras de Sainte-Julienne. Et selon le Journal de Montréal, le jeune homme accompagnait sa famille dans la région de Puerto Plata. La victime prenait place avec son frère sur un scooter et l'événement violent est survenu vers 5 heures du matin. Il y a des informations qui tendent à démontrer que des suspects ont tenté de voler le scooter avant de faire feu en direction de la victime.
Il y a une femme qui lutte pour sa vie du côté de Terrebonne.
Oui, une piétonne dans la vingtaine qui a été happée vers 19h50 hier sur la rue Philippe Chartrand, c'est dans le secteur La Plaine. Elle a été happée par un véhicule. Elle a subi de graves blessures. La police s'écarte pour l'instant la commission d'un geste criminel de la part de l'automobiliste impliqué.
Dépôt d'un projet de loi pour mieux protéger les gens dont l'état mental est précaire.
Oui, Québec veut forcer l'hospitalisation d'un individu dangereux en cas de danger. On se rappellera ce qui s'est produit il y a 2 ans à Louisville, alors que la policière Maureen Brault a été tuée par un individu dérangé. Alors, s'il n'en tient qu'aux oppositions à Québec, qu'on pourrait collaborer à l'adoption rapide du projet de loi.
Le meurtre du propriétaire d'un dépanneur du plateau Mont-Royal a ramené dans l'actualité le débat sur P38. La ministre Sonia Bélanger va présenter un projet de loi qui vise à mieux encadrer les personnes qui représentent un risque. Le chef libéral Charles Milliard a l'intention de collaborer.
À ce qu'on puisse expédier cette nouvelle-là, parce que c'est une façon, évidemment, de soutenir les patients.
Même réaction du chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon.
Ça aurait dû bouger avant. C'est un drame qu'on aurait pu éviter. Et nous allons tout faire pour changer les critères.
Chez les solidaires, Sol Zanetti veut bien étudier la question, mais il rappelle que le sujet est délicat.
Parce qu'il est question de droits fondamentaux, donc c'est faut arriver là avec précaution.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle-Québec.
Et scène politique, un premier député conservateur par défaut à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est l'actuel député indépendant de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, qui a annoncé tout de suite sa candidature pour le parti dans la circonscription de La Peltrie, c'est à Québec. Elle a insisté sur l'importance de représenter les régions.
Moi, j'en suis convaincue, la prochaine grande transformation du Québec, celle qui va remettre le Québec en mouvement, elle va venir de toi, elle va venir de nous, elle va venir du Parti conservateur du Québec. Parce que c'est là que se trouvent les idées courageuses, même certains... on s'en inspire ces temps-ci. réduire la bureaucratie, alléger le fardeau fiscal, redonner le pouvoir aux citoyens, aux régions, remettre l'efficacité au cœur de l'action publique.
Le thème des régions est certainement le thème choisi par les conservateurs. Éric Duhaime lui-même a insisté sur l'importance des régions.
C'est un message qui est envoyé à tous ceux et celles qui ont perdu confiance, notamment dans la coalition Avenir Québec. Et c'est pas la course au leadership présentement qui change quoi que ce soit par rapport à ça. Simaïté est à mes côtés aujourd'hui parce qu'elle représente un grand nombre de Québécois qui veulent revoir le vieux modèle bureaucratique québécois, qui ont des valeurs fondamentalement conservatrices et qui veulent un Québec des régions.
Alors, Éric Kerr est le député actuel de la CAQ dans la Pelletrie. On ne sait pas s'il va se représenter. Il y a des rumeurs qu'il annoncerait sa démission jeudi.
Et pour le moment, ben dans le cas de Maïté Blanchet-Vézina, là, elle siège comme députée dans Rimouski en tant que conservatrice, ce qui fait peut-être pas l'affaire des citoyens qui l'ont élue comme caquiste. Là.
Absolument.
Bon, maintenant, un nom pour l'église de Saint-Lin. En fait, elle n'est pas à vendre, cette église.
Ouais, ce qui se passe, c'est que les gens ont constaté beaucoup de travaux, des bancs arrachés, plein de choses du genre dans l'intérieur de l'église. Ils se sont inquiétés. Et il y a quelqu'un qui a parti une pétition. La pétition est rendue à 657 noms pour qu'on remette l'église en ordre. Alors, ce qui se passe vraiment, c'est, selon Sœur Chantal, il ne s'agit pas de travaux de démolition du patrimoine. Actuellement, de nombreux bancs ont été enlevés, comme je disais, mais c'est pour permettre d'effectuer des travaux sur le plancher de l'église. Sœur Chantal affirme que les travaux sont réfléchis avec soin et ils s'inscrivent dans une volonté claire de préserver le patrimoine de cette église construite en 1887.
Bon, mais ça semble être la sœur qui dirige les travaux, l'impression.
C'est la patronne de la fabrique.
La patronne, oui. l'église et la politique, justement, on va rester dans le domaine. On va y revenir, oui, l'Église et la politique. Oui, on pourrait y aller même tout de suite.
Bon, on va parler à demain.
Un mauvais mélange selon quelques politiciens, c'est ça?
Oui, bien, le premier ministre Mark Carney a participé aujourd'hui à Ottawa à un petit déjeuner de prière nationale, un événement annuel tenu sous les auspices du président du Sénat et du président de la Chambre des communes. Sa présence à cette activité a déplu à l'avocate Christiane Pelchat, qui représente l'organisme pour les droits des femmes du Québec à la Cour suprême dans la contestation de la loi 21 sur la laïcité de l'État. Elle invite Mark Carney à séparer la religion de la politique.
C'est justement ce que l'on réclame, la séparation du religieux et de l'État, parce que malheureusement, M. Carney ne peut pas dire « je ne suis pas là en tant que premier ministre, mais je suis là en tant que croyant ». Malheureusement, il ne peut pas faire cette distinction-là. Il est d'abord et avant tout le premier ministre du Canada. Alors moi, je l'invite à la retenue.
Bon, ben restons dans le domaine des religions. Il y a une majorité de parents qui se dit d'accord avec le port de signes religieux dans les garderies.
Oui, 62% des parents jugent acceptable qu'une éducatrice porte un signe religieux visible à visage découvert. Ces résultats contrastent avec la direction que s'apprête à prendre le gouvernement. Appelé à commenter ce sondage, le chef du Parti libéral, Charles Millard, a déclaré que le projet de loi 9 va trop loin.
Je suis pas surpris parce que c'est ce que j'entends sur le terrain. Je pense que la Coalition Avenir Québec a fait ce projet de loi-là pour servir ses propres intérêts, mettre en valeur l'aspect identitaire. Lors d'une élection générale, on a déjà vu ça dans le passé, alors on tente de nous refaire le même coup. Nous, on n'est pas en faveur de ce projet de loi-là. Alors, je comprends que ça pourrait devenir une loi très bientôt, mais jusqu'à temps que ça ne le soit pas, nous, on va continuer de penser que ça va trop loin.
Commencez à parler depuis hier, en fin de journée, de chute du prix de l'essence à certains endroits, là, mais toujours... encore, ça reste assez stable.
Ça ne s'est pas manifesté nulle part pour l'instant. On parlait même d'une chute de 10 à 12 cents.
Ouais, oui, oui, exactement.
Mais c'est pas le cas. Et le baril aujourd'hui a frôlé les 100 $. Alors, dans la Naudière, le litre d'essence coûte actuellement 1,91 $. Et ça, c'est dans le sud, les Moulins, à l'Assomption, 1,88 $. Et ici, dans la région de Joliette, c'est 1,80 $.
Merci, Pierre Jubinville. Il est 16h39.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
CFNG.
Lanaudière PM. Économie.
L'entreprise d'évolution de la Valtrie, qualifiée de chef de file mondial en solutions de gestion informatique sécurisée et accessible, confirme l'ouverture d'un premier bureau européen à Malaga. C'est en Espagne. Le président David Hervieux là, avait déjà annoncé ce projet-là au collègue Michel Arnois. Et François Morin a relancé M. David Hervieux là, qui avait d'autres choses à annoncer. Là. Il lui a parlé aujourd'hui.
Dans le fond, ça fait quand même plusieurs années que l'évolution roule et puis on a toujours un très beau marché qui est le marché européen. On a 60% quand même de notre chiffre d'affaires qui est en Europe. On a la chance d'avoir une belle diversité entre l'Amérique et l'Europe. Donc, on a officialisé notre ouverture de bureau à Malaga, qui peut paraître étrange, mais il faut se souvenir que l'évolution est déjà étrange en ayant son bureau à la Valtrie. Quand je dis que c'est étrange, c'est juste qu'habituellement, souvent, les compagnies sont plus dans les grands centres urbains. Là. La Valtrie reste une ville intéressante, mais petite. Puis Malaga, ben c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très, très multiculturel. Et nous, en ouvrant à Malaga, ça nous permet justement d'offrir aux gens en Europe la possibilité d'être servi dans leur langue. On commence, bien entendu, avec l'anglais, l'espagnol et l'allemand, qui sont nos langues primordiales en Europe. Mais on veut éventuellement pouvoir desservir les gens en Italie, en italien, en Grèce, en grec, dans les pays scandinaves, en finlandais, s'il faut, en norvégien. Puis on croit fermement qu'on est capable de le faire à partir de Malaga, parce que, un, c'est un très bel endroit avec beaucoup d'expatriés, donc il y a une possibilité, c'est une belle talle pour nous pour recruter des gens qualifiés qui ont la capacité de parler dans la langue native.
On en est au premier balbutiement, si on veut, de ce bureau-là. Il y a combien de personnes qui y travaillent et on pourrait grimper ça à combien, compte tenu de la demande, évidemment?
Ça va vite parce qu'on est déjà à 5 personnes et puis j'ai déjà donné le OK pour doubler la grandeur du bureau. Bon, doubler, c'était déjà un petit bureau, mais c'est pour dire que déjà on anticipe de rapidement monter à 10. Mais dans les prochaines années, on espère pouvoir avoir tout notre centre de services européens là-bas. Je dirais que si on s'ouvre aux différents marchés au niveau des langues, au niveau des régions, ça pourrait aller assez facilement, très rapidement, là.
Bon, évidemment, vous êtes dans le secteur technologique et il n'est pas question d'aller s'implanter peut-être dans d'autres pays. On va rester à Malaga parce que la technologie permet justement de d'interagir avec d'autres clients.
C'est une excellente question, mais c'est pas vrai parce que l'idée éventuellement dans quelques années, ce serait d'aller couvrir plus la partie du Pacifique. Donc, on reste qu'au niveau du fuseau horaire, on a une espèce d'angle mort, tout ce qui est l'Asie et incluant l'Océanie. On a quand même beaucoup de clients en Australie aussi. Donc, si vous avez un mini-scoop, dans les prochaines années, on aimerait bien trouver l'opportunité de pouvoir faire le tour du cadran, là, si je peux me dire, non pas le tour de la planète, pour pouvoir reproduire la même expérience qu'on fait en Europe, mais pour venir couvrir notre espèce de petit angle mort où il faut extensionner les heures dans les autres régions. C'est quand même intéressant de servir de Malaga comme un laboratoire pour éventuellement continuer notre expansion.
C'est donc intéressant de constater, c'est une fierté la nôtre dans le fond, que d'évolution va s'établir bientôt à l'échelle planétaire.
On couvre déjà la planète, mais on va s'étendre avec des gens. On va étendre notre culture parce que chaque endroit a sa propre culture. On a quand même des bureaux aux États-Unis et des bureaux à Ottawa. À Ottawa, ça reste quand même au Canada. Mais c'est le fun de pouvoir, je dirais, communiquer avec des gens, d'échanger, d'en apprendre dans les différentes cultures. Puis la langue reste quand même quelque chose de pas mal plus fort puisque ce qu'on a découvert, qui peut paraître un peu étrange, là, c'est qu'on... Moi, j'ai toujours pensé qu'on était un petit peu spécial au Québec à cause de la langue française, mais je me suis rendu compte que chaque endroit où la langue n'est pas l'anglais a le même désir d'être servi. C'est-à-dire que ce soit, mettons, en Allemagne, mais les gens, même s'ils parlent anglais, ils veulent être servis dans leur langue. Puis c'est quelque chose qu'on veut, je dirais, étoffer dans notre offre.
Dans le contexte actuel de conflit commercial avec les États-Unis, votre entreprise est quand même bien positionnée puisqu'effectivement, on prend de l'expansion là, à l'échelle mondiale.
Diversité, c'est la clé des choses. On a la chance d'avoir construit, donc je mets le mot chance et construit ensemble, une diversité régionale, parce que déjà on voit en Amérique du Nord versus l'Europe la façon qu'ils approchent la législation de la vie privée au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des services en ligne est complètement différente. On a toujours balancé, équilibré nos produits à pas d'une seule façon, mais d'être, je dirais, compatible avec les modes de pensée des différents endroits.
Est-ce que ça pourrait éventuellement avoir un impact sur les activités à la Veltrie? Et là, je veux pas me faire prophète de malheur, mais je voudrais pas dire qu'on va mettre la clé dans la porte au profit d'opérations à l'étranger.
Ah, je vous rassure, c'est vraiment pas l'objectif. Au contraire, ça va très bien à la Veltrie. On a vraiment encore une expansion depuis qu'on a agrandi nos bureaux. Il y a aucun risque là-dessus. L'idée, c'est de faire grandir l'entreprise et indirectement, la Veltrie grandit en même temps. L'idée aussi, c'est d'être capable d'offrir à l'extérieur des services qu'on n'est pas capable d'offrir à la Veltrie et non pas de couper des services à la Veltrie. Par exemple, il y a quand même des gens qui sont partis à Malaga, mais l'équipe de développement n'est pas à Malaga. Les gens là-bas sont là pour offrir des services en Europe et non pas s'expatrier pour faire des choses à distance, ce qui est une petite nuance. Donc, l'équipe de développement n'est pas partie là-bas, sont restés au Québec surtout, mais on a des gens quand même, comme je disais, aussi à Ottawa et aux États-Unis en développement. Mais le cœur du produit reste central à la Veltrie.
En terminant, c'est dire qu'il y a encore de la place à de l'embauche dans la région.
Toujours. Moi, ça fait quand même 15 ans que les employés rient de moi parce que moi, ils savent, on a une pancarte, c'est écrit « On n'engage plus » avec mon visage puis une espèce de bulle et ça fait comme 15 ans que je dis ça et puis ils me croient plus quand je dis qu'on n'engage plus. Donc, il y a toujours de la place au talent.
Voilà, c'est François Morin qui s'entretenait avec David Hervieux, président de Dévolution, entreprise de la Veltrie, là, qui s'apprête à ouvrir un premier bureau européen à Malaga, en Espagne. Dans un instant, Jacques Plante.
C'est le moment parfait pour renouveler vos électroménagers chez Ameublement SG Dion. Profitez des jours d'économie GE et Profile et plus vous achetez, plus vous économisez. Obtenez 10 % de rabais à l'achat de 2 appareils, 15 % à l'achat de 3, 20 % à l'achat de 4 et jusqu'à 25 % d'économie à l'achat de 5 appareils et plus. Sur une sélection d'appareils de cuisine et de buanderie GE et Profile. Mais faites vite, l'offre est valide jusqu'au 25 mars seulement. Passez-nous voir chez Ameublement SG Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Ameublement SG Dion, la qualité et le service près de chez vous.
Ici Mélanie Joly. Dans la prochaine élection partielle fédérale à Terrebonne, vous aurez un choix important à faire. Face à un monde plus instable, Mark Carney et notre nouveau gouvernement libéral, on se bat pour protéger notre économie et notre avenir. Avec notre candidate libérale Tatiana Auguste, Terrebonne a une voix forte à la table des décisions. Le travail vient de commencer, alors on continue ensemble à bâtir un Québec et un Canada plus fort.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Si vous devez changer ou avoir une prothèse partielle, assurez-vous d'avoir procédé à un examen nettoyage chez votre dentiste au cours de la dernière année. S'il y a des réparations à effectuer sur vos dents naturelles, assurez-vous également que celles-ci soient complétées avant la visite chez le denturologiste. De cette façon, des délais supplémentaires seront évités et nous nous assurons que les dents sollicitées seront saines.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autrée, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219 poste 3 ou visite leur page Facebook.
CFNJ. Avec vous partout via l'application CFNJ sur vos appareils Android et Apple.
Au concert du dimanche à CFNJ, Véronique Sanson. Le concert du dimanche, dimanche matin 7h à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Bonjour Jacques.
Hello, hello Claude. Comment vas-tu?
Ça va bien. Je te lance la question aujourd'hui. Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, a-t-il les capacités intellectuelles pour s'exprimer en français?
On se pose la question, hein, parce que là, on le sait, c'est un message qu'il a diffusé. Parce qu'on connaît la tragédie.
Suite
là,
à un drame, oui,
exactement.
À New York. Oui.
Ce message-là a été diffusé uniquement en anglais, 3 minutes 45 secondes.
Mis à part un petit bonjour au début et merci à la fin.
Oui, et quand j'ai lu ça, je me disais, c'est ce qu'on devrait lui dire, bonjour. Et merci.
Il faut rappeler que il y a un pilote québécois, Antoine Forêt, 30 ans, originaire de Coteau-du-Lac, là, qui a perdu la vie dans cette tragédie dimanche soir du côté de New York également. Copilote là, originaire de Toronto, Antoine Forêt, ben c'est un francophone et sa famille est francophone. Puis je pense que Michael Rousseau qui devait des cours de français, des heures et des heures et des centaines d'heures, dit-on, de cours de français, ouais, aurait pu davantage s'exprimer en français là, pour la famille. Là. C'est un manque de respect.
Il a la tête dure, ça c'est sûr, là, il apprend pas vite. Tu parles du pilote et d'un copilote, et il y a aussi cette dame là, qui est responsable des agents de bord qui a fait un vol plané dans son fauteuil.
Dans son fauteuil. Et
c'est une Québécoise. Là.
Gravement blessée.
Mais c'est une Québécoise, la dame.
Elle s'en est sortie, oui, ouais, ouais, exactement.
J'entendais sa fille qui témoignait, qui parle très bien français.
Et alors, rappelons qu'Air Canada a son siège social à Montréal. C'est une ville francophone, on peut dire maintenant bilingue, puis l'anglais commence à devenir du côté de Montréal, là. Mais quand même, le Québec, c'est une province francophone. Encore une fois, Michael Rousseau en a rien à foutre du français. Et il faut se souvenir aussi qu'il avait raconté, parce que c'est pas sa première controverse au niveau de la langue française, Jacques, il avait raconté dans un discours uniquement en français devant la Chambre de commerce de Montréal. Là,
uniquement en anglais.
Oui, il a pu vivre en français facilement, plutôt il a pu vivre à Montréal facilement pendant 14 ans sans parler français.
Ouais. Hein? La première controverse est arrivée là, en 2021 alors qu'il a fait sa prestation devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Tu le donnais tantôt, là, ce qu'on nous donne comme chiffre, puis moi je mets un bémol là-dessus, là, parce qu'on nous donne à peu près n'importe quoi du côté des services de communication d'Air Canada. On dit qu'il a suivi jusqu'à maintenant 313 heures de cours, 250 heures supposées de devoirs.
Ah ouais.
L'impression que, comme on disait à l'époque quand on allait à l'école, il a dû foxer une coupe de cours.
Non, moi j'ai vraiment l'impression qu'il va à la même école que Mary Simon, la gouverneure générale.
À peu près, parce qu'elle parle très bien français elle aussi,
ben,
on
oui,
le voit,
hein,
là. Mais, tu sais, bon, oui, on en parlait tantôt avec les gars à la salle des nouvelles. Il peut s'en foutre un peu, le PDG, mais il reste qu'il y a une loi sur les langues officielles, une loi.
Mm-hmm.
Alors, moi, j'entendais la montée de l'aide du ministre fédéral des Transports, Steve McKinnon, du côté d'Ottawa, qui réagissait. Il trouvait ça inadmissible là, de la part d'Air Canada.
Oui, mais...
Mais en trouvant ça inadmissible, vous allez faire quoi, en quelque
Jacques,
part?
Jacques, historiquement, Air Canada s'est toujours foutu de la langue française, que ce soit à l'époque où c'était une société d'État ou encore aujourd'hui. On se fout éperdument. On a beau dire le contraire chez Air Canada, on s'en fout pas. Pour bien paraître, on dit le contraire, mais on s'en fout carrément de la langue française.
Mais il reste encore, tu sais... Je reviens à ça, c'est une loi. Si elle fonctionne pas, qu'on peut pas la faire appliquer, mais tabarnouche, déchirez-la.
C'est difficile d'avoir du service en français chez Air Canada.
Ben, exactement. Mais c'est un peu comme... C'est sûr que si t'appelles une compagnie qui est anglaise, tu peux te permettre de demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français. Ça se peut que tu te butes à un nom. Ça se peut.
Si t'appelles à Toronto, par exemple.
Ça se peut.
Oui, oui.
Mais quand c'est une société de la couronne, même si ça a été privatisé, médiatisé, là. Il reste que t'es sous le joug, encore une fois, je reviens là-dessus, de la loi des langues officielles, il y en a deux.
Je le rappelle, le français. Le siège social est à Montréal.
Ah oui, mais là, tu sais, à Montréal, là, moi, je te le donne en mille, là, il y en a beaucoup des sièges sociaux, hein. Puis va assister au meeting des CA. Tu vas voir c'est quelle langue qu'on parle. Ça,
des réunions en anglais.
Exactement. Oh oui. Parce que là, on regarde au niveau du CA, là, d'Air Canada, là, le conseil d'administration,
ouais.
Il y a deux francophones.
C'est tout.
C'est tout. Alors, eux autres, ils n'ont pas beaucoup de poids. Là.
Tu peux imaginer que ces deux francophones-là qui siègent au conseil d'administration d'Air Canada ne s'expriment pas en français pendant le conseil d'administration. S'ils veulent être compris, il faut qu'ils parlent en anglais.
Exactement. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils suivent la game. De voir comment ça va être appliqué quand je dis que c'est une loi, il y a la porte-parole du commissariat aux langues officielles du Canada, Mme Arsenault. Ça sonne français, ça aussi, Arsenault. Hein?
Mais tout comme Rousseau, d'ailleurs.
Oui, Rousseau, effectivement. Elle dit que il y a pas de direction depuis janvier dernier. D'ailleurs, la future commissaire de l'organisme qui s'appelle Kelly Burke. Kelly Burke.
Non, mais tu peux être anglophone et francophile
Oui, oui.
À la fois.
Oui, oui. Non, ouais. Mais je voulais dire, ça sonne drôle, Arsenault rapport à Burke. Là.
Ouais.
Tu sais, puis je dirais pas Burke. Elle va entrer cette dame-là en fonction le 30 mars prochain. Alors, juste avant, quelques jours avant le poisson d'avril. On va voir ce que ça va donner. Parce que j'entendais de la députation du côté de Québec, c'était la même chose. Les gens, t'es écoutent, ils disent c'est inadmissible.
Oui, autant du côté du Parti québécois de la Coalition Avenir Québec, et même des réactions du côté d'Ottawa avec le Bloc québécois, c'est certain.
Il y a du monde d'allumer, parce que après la diffusion de ce message-là, il y a des plaintes qui ont commencé à rentrer.
Oui, justement.
Et là, on nous a confirmé qu'il y avait 13 plaintes. Il y a du monde d'allumer
depuis,
quelque part.
Depuis hier. Là.
Oui, oui.
13 plaintes depuis que le message a été diffusé.
Oui, puis au moment où on se parle, là, on n'a pas le dernier chiffre.
Je crois qu'un des premiers à porter plainte, le bonhomme tombe sur le message, sur le web, et fait des recherches pour voir s'il n'y a pas une version française de ce message de Michael Rousseau. Il n'en trouve pas de version française. Et là, du côté d'Air Canada, on va dire, ben oui, on l'a sous-titré français.
C'est ça.
Ben,
c'est ça.
Ben oui.
C'est ça. Écoute. Mais ça, c'est comme regarder un film sous-titré. Tu lis en bas de l'écran, fait que tu vois rien de ce qui se passe, de l'action.
Ouais.
Tu manques le bout, là. Ouais. Je sais pas, là.
Non, mais c'est un manque total de respect pour les francophones. Et là, je te parle même pas juste des Québécois, mais des francophones à travers le pays.
Ben oui, exactement. Et comme je dis, c'est bon de décrier ça, là. Oui, exactement. Mais j'ai hâte de voir ce que le commissariat aux langues officielles va faire. Parce que lui, là, il s'en fout de carrément. C'est évident, ça.
Merci beaucoup, Jacques.
À jeudi.
Je salue et remercie les collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Régent Turgeon, François Morin, Pierre Jubinville, ainsi que Jacques Plante. Je vais aller me dépomper un peu parce que quand on parle de la langue française comme ça, là, qui est bafouée, là, ça me craint.
Notre langue, elle va finir dans le vinaigre.
Ah oui. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Vous serez entre de très bonnes mains de l'autre côté de l'actualité de 17h, puisque Nicolas Bellemare sera là pour vous présenter le 5 à 7 trad. On vous retrouve demain 16h pour une autre édition de l'Anneau d'hier PM à CFNJ. Salut!